Bonjour à tous, bienvenue à ce 100e épisode de Cinébrunch. Et oui, on aime ça, Cinébrunch festoyer en festivité. Ça se dit pas vraiment ça, festoyer en festivité.
Non, mais c'est rare que tu festoies en tristesse, là, c'est un petit peu...
mais pléonastique.
Oui, tout à fait, oui, mais ça pourrait arriver, on sait jamais. Niveau préciser quand même qu'on est joyeux pour,
voilà,
pour cet événement assez magique.
Absolument, et j'en profite pour remercier tous les collaborateurs qui ont contribué à cette émission depuis le début en 2016. Je remercie aussi Louis Laramé, André-Jean Rouleau qui ont été avec nous comme co-animateurs durant cette période, et évidemment toi-même, François Genet, oui, et toi, Mélina Lopez-Nadeau, qui est toujours présent.
Oui, donc, et merci à toi, Jim, de tenir ce micro. Mais en fait, tu le tiens pas vraiment. Là, il y a un
pied de
micro.
Oui,
oui, oui. Voilà. Les gens, visuellement, ont manqué ce moment assez magique. Mais c'est... oui, tout à fait. Mais merci d'être là aussi à chaque semaine. Sinon, on aurait personne qui dit bonjour, bienvenue à Cinébrunch.
Ben, c'est ça, exactement. C'est ça. Hein? Ça serait pas pareil. Hein?
Ça serait
comme
pareil.
Le petit mais chaud sans...
sans le chaud.
Ouais, non, en tout cas. Oui. Alors voilà, vous êtes donc à Cinébrunch pour ce 100e épisode de notre ciné-magazine radiophonique qui s'assume et qui n'a pas peur d'aller droit au but quand on parle de critique de films. Et oui, sur cette phrase extrêmement longue, je vous dis qu'aujourd'hui, en fait, on est tous allés voir pour vous. Enfin, on n'est pas tous allés aujourd'hui voir pour vous, mais aujourd'hui, on va vous parler du film Joker, tous ensemble. Oui. Le film Joker, donc, qui...
Bon, tu vois qu'on est bien rodés après sans show.
Ça
vois?
Paraît.
Oui, ça paraît qu'on
est... Je pense que c'est l'excitation. Là,
mais c'est normal. C'est normal, ça fait partie du moment.
Voilà. Et donc, cette semaine, on va faire une critique commune du film Joker. Film extrêmement médiatisé à l'heure actuelle, évidemment, qui est au cinéma à de nombreuses reprises durant la journée, encore une fois.
Plusieurs
séances par jour. Et film qui ne nous laissera sans doute pas indifférents, et, ni vous ni nous, chers auditeurs. Hein? C'est beau, ça, ni vous ni nous.
Mais c'est ça que je me disais, hein? c'est original.
Oui, c'est ça. Donc, merci. Et puis, bon, ça, on va parler de ça ensemble dans la deuxième demi-heure de l'émission. En attendant, on va évidemment faire quelques nouvelles avec vous et on va vous parler aussi, parce que c'est notre 100e épisode, on va vous présenter un top 5 de nos meilleurs films. Puis même moi, j'étais un petit peu plus loin que ça là, parce que c'était extrêmement, je sais pas pour vous, là, moi c'était difficile de choisir.
Ben,
là, 5
ça
films,
fait 100 films et plus avec les critiques communes, donc c'est un gros bassin à choisir.
Ah oui, et plus de 100 films, parce que juste avec les festivals et tout ça, on a vu énormément de films.
Oui, effectivement. Donc, moi, c'est pas le même problème, mais c'était aussi un autre problème de faire un top, parce que ça fait pas ultra longtemps. Je suis là, puis je voulais choisir des films que j'ai vus dans le cadre de Cinébrunch. Donc, on va s'en reparler tantôt. Comment
des
j'ai...
détails. Bon.
Des détails de tout ça, le top qui s'en vient bientôt.
Parfait. Mais avant de se rendre à cette incroyable beauté, quelques nouvelles, Mélina.
Oui, ben, en fait, moi, je vais vous parler de Marvel, parce que vous savez, Jim et moi, on s'est lancés dans l'écoute de l'univers Marvel. Et là, cette semaine, il y a le réalisateur Martin Scorsese qui a dit que les films de super-héros, comme ceux produits par les studios Marvel, n'étaient pas pour lui du cinéma et étaient plutôt des parcs d'attractions. Donc, il discrédite un peu toute la série de Marvel. Donc, ça l'a réagi sur Twitter, des choses comme ça. Personnellement, je peux comprendre pourquoi il dit ça, mais après avoir réussi à embarquer finalement dans l'univers de Marvel, je pense un peu autrement. Mais c'est quand même drôle que...
Ouais, mais c'est toujours...
Mais je comprends pourquoi il... Oui.
Snobber les films populaires, c'est pas s'attirer la joie du public. Si
non,
vous
c'est
mon avis.
Ça.
C'est peut-être pas la meilleure façon de faire.
Non, tout à fait.
Est-ce que c'est des films aussi recherchés? Probablement pas, mais
surtout
c'est pas ça la question.
Surtout qu'il dit ça quand le Joker sort. Et, en tout cas, le Joker est assez inspiré de certains de ses films, donc c'est un peu étrange.
Oui,
fond,
et je pense pas que le Joker, dans ce cas-ci, pourrait être considéré comme un super-héros.
Non, c'est ça, mais
plutôt l'inverse.
Il y a aussi des rapprochements à faire avec certains de ses films, donc c'est quand même étrange que ça tombe à ce moment-là.
Je sais que tu parles de Scarface, je le sais.
Non, même non? pas. Non, ah. mais Taxi Driver, des affaires
Taxi Driver,
ça.
Ben oui,
tout à fait.
Ouais, en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit Scarface.
Non, mais c'est correct. C'est la centième, oui, oui, c'est correct. Exactement. Mais tout à fait. Mais j'ai vu pas mal de gens qui... J'ai pas nécessairement vu tous ces films-là avec lesquels les gens faisaient des liens avec le Joker ouais. et ça, mais j'ai vu plusieurs personnes sur la toile faire des liens entre le Joker et des films de Scorsese. Mm-hmm. Donc, ouais. Donc, c'est un peu un moment spécial pour y aller de ce genre de déclaration quand on s'entend que ça fait depuis longtemps qu'on parle des Marvel, puis que c'est là. Donc, pourquoi ça arrive à ce moment-là précis?
Ah, va savoir.
Il y a peut-être quelque chose qui est venu le chercher.
Va savoir. Et c'est comme ça. Tu viens de parler sans arrêt, je vais y aller avec ma nouvelle. Donc, moi, comme d'habitude, je vous parle de Luc Besson. Là, c'est rendu un abonnement.
Mais voyons donc, t'imagines.
Non, mais ça finit non, mais plus.
On,
donc,
en fait, on a hâte de savoir ce qui va se passer dans le sitcom.
Oui, non, moi, je pense qu'il prépare exactement. Je pense qu'il prépare une série. Là,
oui, oui, mais parce qu'il y a tellement d'aventures et d'aventures.
Oui, mais là, j'ai pas grand-chose à dire. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il a enfin pris la parole publiquement.
Okay.
En réalité,
ça commence bien, ça.
Encore une fois, accusé par la jeune actrice de viol. Donc ça n'a pas vraiment changé, malgré le fait que la justice l'a blanchi, blablabla. J'ai tout dit ça il y a deux semaines. Mm-hmm. Finalement, bon, c'est ça, ça recommence. Et il s'est confié, donc il a décidé pour une fois de parler aux médias directement et il a dit, je cite, « Cette affaire est un mensonge de A à Z. Je n'ai pas violé cette femme. Je n'ai jamais violé une femme de ma vie. Je n'ai jamais levé la main sur une femme. Je n'ai jamais menacé une femme. Je n'ai jamais contraint physiquement ou moralement une femme à quoi que ce soit. Je n'ai jamais drogué une femme comme j'ai pu le lire. Ceci est un mensonge, affirme-t-il, donc dans des extraits de différents entretiens. » Bref, ça va pas très bien pour lui. On se souvient qu'il a sorti sa biographie, son autobiographie il y a quelques semaines. Franchement, je sais pas quoi penser de tout ça.
On sait pas ce qui va se passer avec ça, non, mais ça sent pas bon.
Non, puis il a comme un peu admis aussi avoir trompé sa femme, sa famille, tout ça. Donc, en passant un certain temps avec cette femme. Et finalement, mais qu'il n'avait pas violé qui que ce soit. En tout cas, bref, je vous épargne les détails parce que je suis quasiment un peu tanné de parler de ça, mais bon, qu'est-ce qui va se passer encore là avec ça? Ça reste à définir. Tout ça pour dire que Luc Besson est toujours donc les pieds dans la soupe chaude, comme on dit si bien
oui,
à Cinébrunch.
Tout à fait, oui. Voilà.
Et donc, à toi la parole, François.
Oui, ben en fait, moi, j'ai une nouvelle que j'ai vue passer et j'ai déjà parlé de ce genre de truc-là aussi. En fait, on a annoncé les gens qui allaient faire la voix française, les voix québécoises, dans le fond, oui. sur La Famille Adams, qui va prendre l'affiche très bientôt. En fait, qui a pris l'affiche, je crois même, si je regarde un calendrier. Alors, dans le fond, Hubert Lenoir, Saskatio et Ludivine Reading vont être, entre autres, dans la distribution. Et je trouve ça un peu toujours spécial, quand même, ce genre d'annonce-là. Où on y va, en fait, Hubert Lenoir, bon, c'est un chanteur, mm-hmm. à la base, il a fait un premier film, il a fait partie d'un premier film en juin dernier, à peu près.
Ouais,
là,
ouais.
On a pu voir qu'il faisait partie d'un film. Donc, bon, il y a le côté acteur qui commence à ressortir, mais bon, Saskatio, qui n'est pas là-dedans non plus,
animatrice.
Qui est une animatrice.
Ouais.
Donc, on s'entend que...
La folie des têtes d'affiche se poursuit.
Ben exactement, c'est ça aussi. C'est le côté de dire, OK, ben dans les films d'animation, les versions originales, ben les versions, dans le fond, les traductions, de plus en plus, on voit ça, vraiment des têtes d'affiche, et on fait des nouvelles de ça pour essayer de
mousser. On veut mousser le film. On veut en même temps peut-être... contribuer à la popularité du doublage. Je ne savais pas qu'il y avait vraiment une popularité à ça, mais en tout cas,
oui,
visiblement, le lobby du doublage se tient.
Oui, hein, exactement. Tient. Donc, c'est le grand questionnement de savoir pourquoi, qui comment, où. Toutes les affaires commencent qui finissent en point d'interrogation.
Ouais,
c'est plein de questions qui peuvent arriver avec ça. Mais c'est ça. Donc, c'est une nouvelle qui est venue m'attirer l'œil un peu pour dire, oui. ben voyons, on est encore là en train de dire... Mondou, est-ce qu'on va aller voir le film vraiment juste
en
parce
plus, André Sauvé, même pas dans le casting.
Ben écoute, étrange.
Pourquoi on irait? Pourquoi
non,
on irait?
Non, mais est-ce qu'on irait juste... Est-ce que toi, t'irais, Jim, pour voir juste
ben moi, la famille
performance
Adam, ça me fait pas triper, vraiment.
Non, mais est-ce que la performance de quelqu'un que t'aimerais vraiment de dire, ah, oh, Mondou...
À l'audio?
Mais même pas pour la version originale, mais en même temps... quelle est la différence entre...
Ben, j'ai été voir La Guerre des Trucs en anglais, moi, tu vois.
Ah, ben c'est ça, un vrai puriste des traductions.
Non, oui. Sans blague, non. Non, mais je suis désolé, moi, les traductions, ça marche juste pas. J'ai bien essayé,
mais même pour mais est-ce que pour les versions originales, si, par exemple, sur un dessin animé, si tu vois, par exemple, quelqu'un...
Je vais tolérer plus
le dessin animé, mais... Oui, mais si tu vois quelqu'un, mettons, que t'aimes beaucoup, un humoriste ou quelqu'un, est-ce que tu vas dire, je vais y aller voir ce film-là juste parce qu'il y a cette tête d'affiche-là, même
clairement
si le film
pas.
M'intéresse pas?
Clairement pas. Puis tu sais, je pense que j'aime pas vraiment personne, en fait. C'est ce que je réalise en répondant à ta question, François.
Mon Et là, si je sais pas pourquoi tu me regardes beaucoup
si
intensément,
des acteurs...
parce que je me sens visé par ce commentaire.
Non, mais je vois pas du tout, là. Non, je suis désolé. Je connais personne qui a une voix suffisamment intéressante pour remplacer le vrai
la
acteur.
Version originale.
Donc, ouais. Non, ça passe pas. À la limite, si c'est vraiment très mauvais, là, peut-être. Tu sais, Kang Pao, bon, ça.
Il y a le moyen d'aller à quelque part.
Seulement dans l'extrême. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Merci, François.
Merci à toi.
Voici Cinébrunch. Ah, on s'est rendu au violon cette semaine,
quand même, hein?
Donc voilà, ça montre
qu'on célèbre, est prêt. On fête, on écoute du violon.
Ben, on se laisse emporter par la musique, hein. C'est un petit peu enivrant quand même comme musique.
Oui.
Tout à fait.
C'est enivrant le terme que je cherche, en fait. Exactement.
Ben, exactement.
Comme une coupe de vin, là. Ouais. À cette heure-là, c'est plus un mimosa.
Ouais, exactement. Moi, en fait, j'ai commandé le mot il y a une couple de semaines. Puis là, tu vas être arrivé. Puis là, enivrant est arrivé. Tu vois, c'est ça qui arrive.
Attends que tu te comprends dans tes blagues.
Non, mais une commande. En tout cas,
c'est, oui, ben, non, c'est ça. C'est des choses. Merci, François. Ce stand-up était donc une commandite de François Genet. donc, ce qui se passe est que, en fait, cette semaine, on était censé avoir avec nous des invités spéciaux. Pour fêter le 100e épisode, non pas anniversaire, parce qu'on est encore assez jeunes, de Cinébrunch. Et malheureusement, bon, les horaires sont ce qu'ils sont. C'était pas possible, donc, d'avoir des gens avec nous. Alors, on va mettre plus de musique aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, non, on a décidé à la place, tiens, on va vous donner un petit top 5 des meilleurs films qu'on a vus dans le cadre de Cinébrunch, donc à travers les 100 derniers épisodes. Dans le cas de François, c'est plus les 25-30, j'imagine,
oui,
dans ces jours-là.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pas grave, c'est, oui. Hein,
ça
c'est
fait beaucoup de films.
Ça fait beaucoup de films.
Moi, je me souviens même pas de tous les films que j'ai vus, mais...
Mais non, moi non plus, c'est sûr que non. Puis des fois, il y a des films qu'on a vus avec quelqu'un, qu'on n'a pas nécessairement critiqué, mais qui ont été critiqués durant la période Cinébrunch.
Puis là, peut-être que tu vas nommer un film, puis je vais dire « Oh non, je l'ai pas mis dans mon top 5, c'est triste! »
C'est très possible, mais on va voir s'il y a des doublons. Moi, c'est ça qui me... Je suis curieux de savoir s'il y a beaucoup de doublons dans la chose. Alors, comme on a l'habitude de le faire, on va on va faire ça en ordre. Donc, on va commencer de 5 à 1, donc en ordre décroissant. En commençant par François.
Et mon dos, tu me surprends, moi, là.
Non, je suis comme ça.
Mais en fait, moi, j'y vais dans un top. À chaque fois que je réécoute un top que je fais ou que je fais un top ou que peu importe, si je reviens sur un top une fois après, que je fais un top 5 par exemple, je me juge tout le temps en me disant pourquoi t'as fait ça.
Mais parce que ça change. Parce que
c'est évolue. Oui, parce que c'est des affaires qui évoluent, c'est des affaires d'un moment aussi. À ce moment précis-là, quand j'ai fait le top, je me sentais comme ça. Puis bon. Et je me suis dit donc, je vais essayer d'aller chercher les films que j'ai le plus le goût de revoir.
Ben, c'est drôle, j'ai fait exactement ça.
Ben, voilà.
Les films que je reverrais maintenant.
Ben, okay. C'est des films, des fois, que c'est pas nécessairement est-ce que c'est les meilleurs, est-ce que j'ai regardé nécessairement, j'ai pas regardé les notes que j'avais données.
Non, c'est ça. Ben, ça peut être un peu mêlant aussi, là, parce que ça peut changer. Ouais.
Exactement. Mais je me suis dit, des films qui m'ont assez marqué, entre guillemets, pour que je puisse dire, ben, écoute, là, je le réécouterai. Oui, ça serait ça.
C'est génial, ça.
Donc,
ton numéro 5.
Mon numéro 5, on en a parlé récemment, c'est Vers les étoiles, Ad Astra.
Oui,
oui. Tout à fait. Absolument.
Ah, oui.
Oui, oui, oui. Parce que moi, j'avais dit un petit peu lors de la critique, on s'en souviendra pour les fans de Cinébrunch, comme quoi que moi, je ne suis pas nécessairement ultra science-fiction.
Oui, c'est vrai que ce n'est pas ton...
C'est pas nécessairement ce vers quoi je suis porté d'aller nécessairement, mais je trouve que là-dedans, il y a une belle profondeur dans ce film-là. Et je trouve que de le revoir... j'aurais des trucs potentiellement que des nouvelles affaires que je pourrais découvrir dans ce film-là. Ouais. Il y a une nouvelle profondeur que je pourrais aller chercher. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Puis je pense que c'est un beau voyage pour pas faire un jeu de mots, mais c'est un beau voyage, je pense, ce film-là. On se laisse transporter et on s'en va ailleurs. Mm. Donc pour moi, Vers les étoiles, c'est un bon film, même si c'est récent quand même. C'est dans mon top.
Ouais,
là,
mais Brad Pitt aussi. Puis c'est Brad Pitt qui garde son calme dans l'action. C'est cool,
oui,
c'est nouveau, c'est différent.
Il y a quelque chose de différent. Ouais, puis il y a quelque chose qui me dit oui, je le reverrai. Puis je pense que je gagnerai quand même quelque chose là-dedans. Puis j'aimerais ça le revoir aussi avec d'autres personnes puis voir leur avis. Puis c'est un film qui est intéressant aussi à discuter alentour d'un bon verre d'eau.
François, quel être festif tu es.
Quand même.
Ah, je sais. Non, mais c'est la centième où ce n'est pas.
Ben, exactement. On se laisse aller de l'eau.
Ben, voilà. Tout à fait.
Merci, François. Tiens, on va tourner en décroissant. Donc, Mélina, ton numéro 5.
Oui, mon numéro 5, en fait, le seul documentaire de mon top 5, quand même, un documentaire biographique qui m'avait complètement renversée en 2018 quand je l'avais vu. Documentaire sur ma chorégraphe et danseuse Louise Lecavalier.
Bien, oui. Oh.
Je pense que j'ai parlé de ce film-là
souvent.
Je l'ai même vu à deux reprises au cinéma. Ce qui m'a le plus marqué dans ce film-là, c'est comment on réussit à utiliser la danse pour illustrer des choses, pour illustrer les propos. Comment on réussit à bien filmer la danse parce que mélanger deux arts ensemble, c'est pas toujours facile.
Effectivement.
Et dans beaucoup de cas, je suis pas nécessairement contente de la façon dont de la danse va être montrée à l'écran parce qu'à chaque fois qu'on ajoute une coupe ou un mouvement de caméra, on ajoute un mouvement et la danse est déjà du mouvement. Donc, je pense qu'il faut il faut vraiment savoir ce qu'on fait quand on veut monter de la danse, donc quand on veut présenter de la danse à l'écran. Et dans ce documentaire-là, c'est vraiment pari réussi et même on réussit à construire quelque chose de nouveau et à aller plus loin. Donc, Louise Lecavalier, sur son cheval de feu, on amène des scènes d'un autre niveau. On est vraiment dans de l'art. Pour moi, c'est vraiment de l'art. J'ai adoré ce documentaire-là et effectivement, je le reverrai. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui aiment le personnage, la personne, parce qu'on s'entend que c'est une femme extraordinaire, ou simplement la danse, je vous le conseille encore. Donc, Louise Lecavalier sur son cheval de feu, mon top 5.
Ben merci, Mélina. De mon côté, beaucoup de difficultés là, à classer ça dans un ordre quelconque.
Simple,
j'ai été un peu à peu près. Là, j'ai mis mon top 1 et 2 sont clairement les films que j'ai le plus hâte de revoir, mais les autres sont dans un ordre qui n'a pas vraiment d'importance. Tout ça pour dire que ex aequo, La Passion de Van Gogh, qui est un film que j'ai longuement...
Le film avec des peintures animées.
Oui, exactement. Film entièrement fait avec de la peinture à l'huile qui de la manière... Donc, on a étudié, sans artiste, on a étudié exactement la façon de peindre de Van Gogh pour reproduire sous forme de film d'animation entièrement peinturé. L'histoire, un peu la biographie de Van Gogh, mais non pas de ces derniers jours, non pas vu par Van Gogh lui-même, mais raconté par un personnage secondaire qui tente de savoir ce qui lui est arrivé, parce que la mort de Van Gogh est un mystère encore aujourd'hui. Oui. C'est assez particulier comme histoire. Ce film-là est excellent. Il est sur Netflix en ce moment. Oh. Encore une fois, si vous voulez aller le voir, c'est possible. Et ex aequo avec ce film-là, je vous dirais le film Capharnaüm, drame libanais, assez récent sur la vie et la misère des enfants de Beyrouth au Liban, vu par les yeux d'un enfant, Zayn, qui, franchement, ce film-là est troublant, est long, et a tout pour... bref, c'est pour ça qu'il est plutôt loin dans ma liste des films que j'ai envie de revoir, parce que j'ai envie puis j'ai pas envie, tu sais, c'était bon, mais bon, c'était long. Puis c'est rough un peu comme film. Mais c'est toute beauté, vraiment un film extraordinaire qui nous plonge dans un environnement qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, surtout nous ici dans notre culture occidentale. On est tellement loin de ce poids, de cette lourdeur-là de survie que vivent certains enfants plus défavorisés dans certains pays, dans certaines villes du monde. Donc voilà, c'était mon top 5, Capharnaüm et La Passion de Van Gogh. côte à côte. Et c'est quoi?
Oh, quand même.
François, je savais pas qu'on avait le droit de faire ça.
Ouais, ben non, mais on invente nos propres règles. Hein. C'est là qu'on voit que on s'en va nulle part. Qu'est-ce qui se passe?
Ben non, c'est ça.
Moi, mon quatrième, c'est Pokémon Détective Pikachu.
Oh!
Et là, je sais qu'il y en a qui vont me juger là-dessus. Mais en fait, parce
rien
que.
Ça change vraiment. Là,
non, mais dans le sens où je trouve ça intéressant qu'on n'est pas allé dans la facilité dans ce film-là, dans le sens où c'est une très grande franchise, on savait qu'on allait vendre les billets et on a quand même pris le temps de faire un film qui était bon pour...
Qui était plus profond
qui
que
était
juste...
Plus profond que juste on a fait des Pokémon en 3D. Mm. Et pour ça, moi... Puis je pense aussi qu'il y a, encore une fois, dans le côté « Est-ce que je voudrais le revoir? » Je pense qu'il y a beaucoup de trucs intéressants là-dedans que j'aimerais revoir. Par exemple, plein de subtilités dans le background, comment c'est fait aussi, les Pokémon, comment ils sont. Mm. Bon, c'est... Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce film-là, puis qui est différent aussi. Tu sais, j'ai essayé de prendre des films aussi un petit peu différents les uns des autres pour avoir une sélection un peu quasiment comme les cinq films que tu apporterais sur une île déserte.
Oui.
Là, tu sais,
oui.
Le côté, tu veux pas avoir cinq films autobiographiques, sinon ben, c'est un peu toujours dans le même genre. Ça, c'est un genre qui...
De toute façon,
qui...
moi, j'apprendrais tout de suite Castaway là, si je m'en allais sur une île déserte. Ça me semblerait le film de...
Oui, c'est
de...
vrai, pour savoir comment, comment peut-être ça sortir.
Moi, j'apporterais un lecteur DVD. Ah. Et une télé aussi.
Oui,
moi j'apporterais vraiment longue rallonge parce que, en tout cas, l'électricité, c'est plus difficile des fois dans ces eaux-là.
Mais on s'écarte du sujet.
Oui,
donc, Détective Pikachu.
Oui, donc, tout à fait. Je pense que c'est un film aussi qui, quand tu regardes juste un film de Pokémon, tu ne penses pas nécessairement qu'il va aller là. Puis ça va à des endroits différents. Donc, moi, je trouve que c'est il faut leur lever le chapeau. Dans le sens où ils ont pas fait la simplicité, le petit chapeau de détective, tout à fait qu'on lève aujourd'hui pour ça. Et donc, quatrième, quand même, dans le top. C'est, ben, quand même, j'ai pris des films qui étaient là, j'ai moins de films que vous autres, que j'ai regardé pour Cinébrunch.
Oui.
Évidemment, pas dans ma vie, c'est pas le top de ma vie.
Non,
là,
mais on
évidemment.
Sait que t'as un attachement pour les films d'animation. Là. C'est, on respecte ça tout à fait, là, François.
Oui, non, mais c'est un mix. C'est ça qui est bien aussi. C'est un mélange des deux.
T'as pas tant le choix. Mélina, numéro 3.
Numéro 4. Numéro 4, on continue.
Vous comprenez pas.
Moi, pour mon quatrième film, je suis allée avec une comédie... qui parle d'adolescence et donc je parle du film québécois Charlotte a du fun. Le film de Sophie Lorrain, donc qu'on a vu en 2018 également, qui est un film qui réussit un pari très grand, qui est celui d'être en noir et blanc, quand même, on va se le dire.
Effectivement.
Quand même, dans le film, ça, c'est super bien réussi, mais aussi on réussit le pari de mettre des acteurs, actrices qui n'ont pas tant d'expérience, de grande expérience, et d'avoir un film qui explose de réalisme.
Oui. Donc, et sans aucun adulte.
Et qui montre vraiment l'adolescence comme l'adolescence. Et donc, je vais faire quand même une petite mention à Lady Bird qui a
oublié. Oui, ben c'est ça, j'ai regardé le poster. Là.
Oui.
On a un poster ici.
Mais entre les deux, je veux dire, les deux sont deux films d'adolescents. Je pense que j'ai peut-être ma préférence pour Charlotte du fun. Mm. Est-ce que c'est parce qu'on représente notre univers québécois, l'adolescence vraiment.
Ben, c'est plus léger
des
aussi.
Des jeunes québécois. Ouais. Oui, c'est plus léger, mais il y a quelque chose qui venait plus me chercher dans Charlotte du fun. Mais Lady Bird aussi, un autre très bon film d'ado. Je trouve que dans les dernières. Ben, dans tout cas.
Ouais,
on
a eu des papiers.
On a eu des bons films d'ado.
De qualité, là, pas de. On est loin
non,
de...
vraiment.
Non, c'est ça aussi. Il y a eu un souci du détail, des fois, là, dans ces films.
Vraiment intéressant.
Puis
Charlotte a du fun, du moins. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Très bon film, réalisé par Sophie Lorrain. Donc voilà, Jim, à toi.
Ben, merci. Oui, mon numéro 4, moi, ben, c'est le film Au revoir là-haut, superbe film français d'Albert Dupontel. Ça se passe partiellement pendant la Première Guerre mondiale, où les gens se sont obligés d'aller, j'ai oublié le terme pour ça, là, sont conscrits, circonscrits.
Ça dépend ce que tu veux dire.
sont obligés d'aller à la guerre.
Oui, ah, OK, c'est ça. Oui, moi, j'osais pas.
Non,
mais
tu fais bien. Ne pas confondre.
Tout à fait.
Donc, oui, c'est ça. Donc, et ça se poursuit. Bon, il y a un des deux gars qui se ramasse à être dévisagé littéralement. Bizarrement, il développe encore plus son côté artistique. Ça crée un film qui joue vraiment quasiment un Amélie Poulain, là, qui joue un peu entre la réalité puis la fiction. Donc, un très beau film français. Donc, c'était mon numéro 4. François, rapidement.
Oui, moi, en fait, c'est le film que j'ai vu dans le cadre du FCMS, Diamantino.
Je m'en souviens pas du tout.
Ben, mon doux, moi, je m'en souviens, par exemple. C'est ce qui compte. En fait, c'est un film qui va ailleurs. Et quand je suis sorti de ce film-là, j'en avais parlé un petit peu, parce que le FCMS, on en avait parlé. On avait parlé beaucoup de films, quand même, là, en peu de temps.
Oui.
Mais c'est un film qui est absurde, un film portugais qui est assez absurde et qui parle d'un joueur de soccer, entre autres. Donc, moi, évidemment, c'est un sujet
qui vient de chercher tout de suite,
allé me chercher. Oui. Mais c'est un genre d'un peu science-fiction, absurde. On s'en va vraiment dans quelque part de différent qu'on voit pas régulièrement. Et ça m'a troublé un peu. Je suis sorti de là et j'ai dit, soit que c'est le pire film que je viens de voir ma vie, soit que c'est peut-être un des meilleurs, ou dans le fond, peut-être que c'est rien des deux catégories, finalement.
Ben, c'est dans ton top 5, mais... doit être quand même pas si pire, là.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est parce que c'est un film que j'aimerais revoir, parce que je suis tellement troublé par ce film-là, que, pas que je dors plus depuis ce temps-là, parce que je dormais pas avant non plus, mais dans le sens où...
J'espère avoir trouvé une cause.
Oui, c'est ça, exactement. mais dans le sens où c'est un film qui est différent et qui me pose des questions et que j'aimerais revoir, parce que il y a tellement de choses spéciales qui se passent dans ce film-là que je veux pas divulgâcher. Allez le voir. Ça vaut la peine.
Diamantino.
C'est tellement différent que même si vous aimez pas ça, allez le voir, vous allez pouvoir dire « J'ai vu Diamantino ».
Ben écoute, juste pour ça, François, on va aller le voir.
Ben écoute, voilà, il va falloir revenir là-dessus.
Oui, Mélina, ton numéro 3.
Mon numéro 3, un film que j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle Green Book, donc le livre de Green en français. J'en avais parlé encore durant plusieurs émissions, notamment parce qu'il a aussi gagné l'Oscar du meilleur film plus tard, donc j'en ai reparlé à ce moment-là.
Ouais.
C'est un film qui est sorti en 2018. C'est un film biographique, un drame biographique, mais ça a suscité plusieurs débats, mais sur l'histoire d'un pianiste noir, Don Shirley, et son chauffeur.
Il a gagné un Oscar aussi.
Oui, c'est ça, il a gagné l'Oscar du meilleur film.
Oui.
Et son chauffeur et garde du corps, Tony Lip. Donc, super bon film, super touchant, plein de bonnes qualités. Donc, voilà.
Ben voilà, merci. Et de mon côté, ben parce que le temps file, hein, mon numéro 3, ce serait le film Genèse, film québécois habilement réalisé par Philippe Lesage, très crédible, où on suit la réalité d'adolescent, encore une fois, dans un film d'ado, mais un peu spécial, avec un dernier acte qui est complètement déconnecté du reste, mais c'est très très bon. Le film aurait probablement eu plus de succès s'il avait été signé par Xavier Dolan, mais non! Film de 2018, donc allez voir ça si vous pouvez, le film Genèse. François, numéro 2!
Numéro 2, moi c'est mon créneau super-héros qui arrive au numéro 2. Alors, avec Avengers, phase finale.
Ah, Endgame!
Oui, bien sûr. Tout à fait. Mm-hmm. Alors, j'avais vu juste le deuxième, j'avais pas vu les autres de la série, mais c'est donc un très bon film. Et mention spéciale, comme on est dans le créneau pour les super-héros, comme j'ai vu qu'on avait le droit finalement d'en mettre plusieurs.
Certains disent, là.
Il y en a qui disent ça.
Tant qu'ils font vite.
Oui, tout à fait. Ben, mention spéciale à Shazam, quand même, qui est un très bon film de super-héros. Aussi, et qui va déconstruire un petit peu les vrais films de super-héros. Donc moi, j'aimerais ça faire Avengers, puis après ça, Shazam, pour déconstruire les films de super-héros et rire un bon petit coup.
Mais
donc c'est pour ça que, hein, un beau petit combo.
Bon, merci François. Numéro 2, Mélina.
L'histoire de Jean-Christophe.
Oh, ouais.
J'avais oublié. Film de 2018, je pense qu'il s'est retrouvé pour nous deux au numéro 1 de notre top 3 des films de 2018 quand on l'avait fait. Définitivement à voir, réalisé par Mark Forster, qui est un film en prise de vue réelle qui est sombre et porteur d'espoir à la fois, qui nous fait vivre plein de choses, mais dont je suis sortie complètement bouleversée de ce film-là, mais pour une bonne chose, et certainement je le reverrai.
Ben super, avec dans l'histoire de Winnie l'ourson. Ben de mon côté, numéro 2, vous allez vous en souvenir, ça fait pas très longtemps, Peanut Butter Falcon, le faucon au beurre de peanut, ou au beurre d'arachide, je suis sûr. Film que j'ai critiqué il y a quelques semaines, superbe film sur un enfant trisomique et un fugitif qui se rencontre, donc film de 2019, fortement recommandé de mon côté. Et François, ton numéro 1, le film que tu as le plus envie de revoir, que tu as critiqué pour nous.
Écoute, à Cinébrunch, c'est des choix déchirants. J'ai quasiment le goût de changer mon top, puis on n'a même pas encore fini.
C'est vrai?
Oui, je sais, c'est fou à quel point on... Hein?
On l'aurait pas cru.
Alors, mon top 1, c'est mon numéro 1, c'est Rocketman. Oh, hein, quand même, je sais que vous voyez.
On s'y attendait pas.
Ouais, je sais, parce que on est dans l'ère du temps des biopics. Il y en a tellement.
Ben oui, il y en a eu plein.
Il y en a eu plein ces temps-ci. Donc, pour moi, c'est de le mettre là pour dire aussi. Je pense que c'est un biopic qui est ultra fort, qui est puissant, qui est très bien fait et qui je voulais mettre comme numéro un parce que c'est un film qui, malgré toutes les biopics, a su sortir un petit peu du lot, selon moi. J'ai pas toutes vu les biopics non plus qui sont sortis dans l'année à Cinébrunch, mais quand même, je pense que c'est intéressant de mettre ça parce que c'est dans l'air du temps et c'est un beau biopic à aller voir. Et mention spéciale quand même, un film que j'ai pas vu pour Cinébrunch parce que j'en ai pas parlé à Cinébrunch encore, mais j'étais allé voir cet été le film Yesterday, un très bon film. Alors, mention spéciale. Alors, c'est un genre de biopic sur les Beatles, mais pas tant que ça, parce que
mais c'était pas le
Beatles.
Film du gars qui se souvenait de la tune.
Exactement.
C'est le seul qui s'en souvenait. Hey, je veux le voir, ce film-là.
Exactement. Donc, c'est pas une biopic des Beatles, mais on entend des tunes des Beatles dans ce film-là. Ça. Donc, c'est comme un genre
un hommage, mais d'une autre façon.
C'est un hommage, mais d'une autre façon. Donc, je trouve ça intéressant de dire ceux qui sont tannés des biopics, mais qui aiment rendre hommage à des artistes, ben, allez voir Yesterday. Très, très, très bon film. Donc, un beau lien.
Merci, François.
Voilà,
numéro 1. Et numéro 1, Mélina.
Ben là, moi, j'avais choisi Un garçon magnifique, donc Beautiful Boy.
C'est les noms qu'on veut. Ah non, ça, c'est le titre du... OK, voilà, c'est le titre du film. Voilà,
mon erreur. Ça met en vedette Steve Carell et Timothée Chalamet. J'avais adoré ce film-là, même s'il m'avait rentré dedans. C'est l'histoire d'un père avec son fils qui a des problèmes de consommation.
T'avais pas été capable de le critiquer, je pense, au moment de...
Je pense que j'avais pas été capable de critiquer. Ouais, ce film-là m'avait touché à un niveau tellement profond. Steve Carell, qui est excellent dans ce rôle-là. Mais en cours de route, là, je me suis dit, oui, mais j'ai oublié Pierre Lapin dans mon top 5.
Tu vas pas vraiment mettre Pierre Lapin dans ton numéro 1.
Et je pense que je vais mettre Pierre Lapin dans mon numéro 1.
Là, voyons. Après ça, on va juger, moi, mon détective Pikachu.
Ben, voyons.
Mais c'est que Pierre Lapin, ce film-là, un autre film, je trouve que c'est un des bons films en prise de vue réelle qui a été réalisé dans les dernières années. Le poil des lapins me fascinait.
Voyons, on
ne
peut pas mettre
point...
un film top 1 pour le poil des lapins.
Ça s'est déjà vu par le passé, là, à Pixar.
Mais pas juste pour le poil des lapins, pour tout ce qui est dans ce film-là, pour
des
l'humour.
Lapins, en fait. Pour non, les lapins.
L'humour qui convient, qui peut. Il y a des blagues pour les enfants, il y a des blagues au deuxième degré pour les adultes, il y a des blagues au troisième degré pour les lapins. Tout le monde est servi.
C'est vrai. Même les lapins regardent ça et ils disent mon doux, ça semble réel.
Alors, le film d'animalerie idéal.
Oui, et Pierre Lapin est un lapin, ma foi, qui
est un lapin.
Tellement charmant. On aimerait ça l'adopter puis l'avoir ici ou dans notre maison de campagne, peu importe. Mais ce film-là, j'ai déjà hâte à la suite. Donc voilà, Pierre Lapin.
Est-ce qu'il va y avoir un Pierre Lapin?
Oui, ça a été annoncé. Ça va sûrement sortir pour Pâques. Donc on en parlera au moment venu.
Oui.
Et là là.
Merci beaucoup, Mina. Et de mon côté, mon numéro 1, c'est le film Guy, le film français de fiction qui a plutôt l'air d'un documentaire réalité sur la relation entre un chanteur fictif de variété qu'on appelle Guy Jamais et un fils caché qui essaie de le retrouver et d'apprendre à connaître son père. Film de 2018, excellent, très divertissant. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour retrouver ce film-là. Mais franchement, si vous avez la chance de revoir ce film-là, regardez-le. C'est super bon, divertissant, ça passe vite, c'est génial. Très, très bon film français. Et ex aequo, parce que moi aussi, j'aime bien
exagérer.
Voyons,
toi, c'est un top 1000, en fait, camouflé en top 5.
Tu savais le nombre de mentions spéciales que je ne vais pas te dire.
il va y avoir juste une émission spéciale pour ça.
Non, mais en fin d'année, on...
Oui, c'est ça, exactement. C'est ça.
Donc, celle que vous croyez, le film avec Juliette Binoche que j'ai écrit il y a quelques
récemment,
semaines.
Oui,
assez récemment, oui, qui t'avait
très,
un
très,
peu
très,
cassé.
Très,
le...
Ouais, ouais,
qui t'a changé. T'es rendu une personne différente.
Quel film habite? Ah, je suis plus la même personne.
On te reconnaît plus.
Ah non, je sais.
Mais il y a un autre film, moi, que j'aimerais faire une mention spéciale, puis je pense que tu l'as peut-être oublié.
Tu retournes dans le temps, là, oui.
C'est le film Vice, que t'es même allé voir deux fois de suite
c'est
au
un
cinéma.
Fait. Je dois admettre que j'ai moins aimé la deuxième fois que
c'est
la
vrai?
Première. Mais oui, j'ai vu plus de défauts, tu vois.
Ah.
Mais oui, Vice aurait probablement été dans mon top 5 si j'avais vu juste une fois. Tu vois, c'est drôle, hein?
C'est ça, des fois.
Mais
c'est
très divertissant, mais un petit peu plus de mensonges que je pensais dans le film qui fait que
c'est un
peu
moins. Mais c'est intéressant. Et l'autre film que personne n'a parlé, quand même, mention 1991, le film de Ricardo Trogi.
Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé, mais
personne,
oui.
Moi, j'étais
pas
là quand
il aurait fait un bon numéro 4.
Oui.
Non, c'est ça.
Mais il y a je trouve que c'est un bon film québécois aussi qui a été fait dans les derniers.
À mon sens, le meilleur des trois films de Ricardo Trogi.
Bon, mais c'est ça. De la trilogie, en fait. Il n'y en a pas juste fait trois, mais oui, ça fait...
De cette trilogie.
De cette trilogie, oui. J'ai pris pour acquis que les auditeurs comprendraient.
Oui,
désolé,
oui.
François, la prochaine fois, je vais niveler par le bas.
Oui.
Donc,
les couteaux volent.
C'est ça. Alors voilà, merci à tous. C'était notre top 5 des meilleurs films qu'on a vus pour vous à Cinébrunch. Et dans quelques instants, le Joker. Et oui, c'est le moment de parler du film Joker, film qui est toujours à l'affiche, donc que vous pouvez aller voir quand vous en aurez envie, puis je pense qu'il va être là pour un bon moment.
Mm-hmm. Oui, oui, oui.
Donc, oui.
Ah oui, le Roi Lion vient juste de quitter la maison du cinéma.
Ah, je suis
donc,
certain qu'il va revenir pendant les vacances des fêtes.
Il a quand même fait du dommage dans les sièges, le lion.
Le roi, oui.
De quitter, oui. Oui, tout à fait.
Oui, il y avait des marques de griffes sur mon siège quand je suis allée dernière fois. Oui, fait, la c'était... mousse sortait du siège.
On est parti dans une folie.
Non, mais
c'est
effrayant. Hein, ça paraît que c'est la centième.
C'est la centième, on le répète.
On ne se tient pas.
On est dans la fête aujourd'hui.
C'est le party. Donc, c'est ça, en fait. Le film Joker, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu... En fait, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de film de type Origins pour le Joker.
Non, les autres Jokers qu'il y a eu avant avec...
c'est pas un film sur l'origine du Joker. Donc, c'est le premier. Il y a eu beaucoup de films d'origine au niveau de Marvel, certains personnages de DC, mais...
Est-ce que même les vilains aussi?
C'est peut-être la première fois qu'un vilain a... Quoique, Marvel en a fait un avec Venom récemment. C'est une espèce de origin de Venom, donc, qui est un vilain. Donc, c'est intéressant de voir cette espèce On a peut-être fait le tour des héros.
C'est exactement ce que je voulais dire. Là, maintenant, on est peut-être rendu dans les vilains, puis on va se laisser le temps de plutôt regarder les héros, puis après ça, dans une couple d'années, on va revenir sur les héros.
Parce que ça donne un film complètement différent. Je veux dire, sans parler du film en tant que tel, mais faire un film sur un vilain, sur ses origines, ça donne un feeling complètement différent que de faire un film sur les origines d'un héros. On s'entend?
Ouais. Absolument. Avant de se lancer dans le film directement, on sait que la trilogie de Dark Knight, Christopher Nolan, mettant en vedette le personnage du Joker par... c'est quoi son nom déjà?
Heath Ledger, c'est ça.
Oui,
et, ça va bien.
Oui, ça, on va y arriver. Donc, Heath Ledger, qui a transformé à jamais, je crois, le fait d'acter Batman au cinéma.
D'acter Joker au
cinéma d'une manière beaucoup plus dramatique, plus folle peut-être,
Il me semble que, j'ai pas tout vu les Batman non plus, mais il me semble que de mon souvenir, c'était plus des Jokers un peu plus, un peu plus frivoles, un peu plus drôles, qui essayaient de...
Ça dépend.
Il y avait certaines... Ouais. Oui, mais il y avait effectivement certaines versions là-dessus.
Mais c'était plus léger que Dark Knight, dans tous les cas.
C'était plus léger, effectivement, puis même dans la façon qu'on l'habillait, puis dans la façon qu'il était, c'était un petit peu plus caricatural, peut-être, pour certaines façons d'interpréter. Heath Ledger a complètement, effectivement, changé la donne au niveau de notre perception du Joker.
Non, est-ce qu'on met les gens en contexte avant de parler du film?
Tout à fait.
Oui. Tiens, François, vas-y.
Oui, je vais lire un petit synopsis rapide. Dans les années 1980, Gotham City, évidemment, parce que ça se passe là, Batman, le Joker.
Un classique.
On peut pas aller ailleurs, c'est pas dans les Bahamas que ça se passe. Arthur Fleck, qui est le Joker, est un comédien de stand-up raté et qui se fait agresser dans les rues de la ville habillé en clown. Dans le fond, ça t'a parlé, cette partie-là. Oui, tout à fait. J'ai revu des scènes de mon enfance. Alors, méprisé de tous et bafoué, il va bousculer un petit peu plus dans la folie pour devenir peu à peu le Joker, un dangereux tueur psychotique quand même. Hein?
C'est une façon de le voir. Oui,
alors c'est 13 ans et plus. Voilà.
C'est quelque chose.
Distribution, Joaquin Phoenix, Robert De Niro aussi qui est là-dedans. Mm-hmm. Il y a plusieurs personnes. C'est réalisé par Todd Phillips qui avait réalisé pas nécessairement des films dans ce créneau-là. On est complètement ailleurs. Donc, je pense qu'on a une belle bande-annonce pour essayer de se mettre dedans puis voir qu'est-ce qui se passe dans ce film-là.
Oui.
Arthur. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. C'est la dernière fois que nous nous voyons.
Vous écoutez rien, hein? Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail? Avez-vous des idées noires en ce moment? Tout ce que j'ai, c'est des idées noires.
Et à notre époque où tout le monde croit pouvoir faire mon boulot, écoutez un peu ce gars-là.
Quand j'étais petit et que je disais que je voulais faire comique quand je serais grand, tout le monde riait de moi. Ben, y a plus personne qui rit maintenant.
Ah, et ça, tu l'as dit, mon gars.
Alors oui, la version originale est meilleure déjà à l'audio.
Mm-hmm. Oui,
mais quand même, ça donne une idée un peu du portrait du truc. Là.
Oui, tout à fait. Ouais. Je suis allé voir le film en version originale. C'est ce qui est quand même assez rare. Oui. Quand je vais voir au cinéma, des fois, ça dépend des fois. Mais là,
tu fais partie du lobby du doublage.
Non, ben, je m'appelle pas comme ça. Mais bon, on pourra en reparler dans un autre Cinébrunch. Mais bref, c'est un film. On va y aller comme ça. On va commencer par se lancer directement dans comment on s'est senti.
Oui.
C'est un film d'acteur.
Oui.
Oui.
Le jeu d'acteur, c'est là que tout le film est, en mon sens.
Il n'y a pas vraiment de personnage important à part cet acteur-là. Mm-hmm. Tout est dans... c'est quelque chose. Hein?
Et même, le scénario est correct, ça marche, mais il y a quelque chose dans juste... Il y a quelque chose qui transcende le scénario dans le sens où tu regardes la performance... Mm. De Joaquin Phoenix, c'est
c'est impeccable. Ah ouais, là-dessus, moi, j'ai...
Wow. Mmh.
Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans le film, en fait, c'est la vision défaitiste des troubles de santé mentale ou du soutien qu'on peut apporter à ces gens-là, parce qu'on a un homme qui, psychologiquement, va vraiment pas bien. Au début, on le voit, il y a quelques rencontres avec une travailleuse sociale, et bon, ben, les fonds sont coupés, donc il se retrouve...
Il laisse à lui-même.
Et toute la noirceur qui va se dégager de ça, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué dans le film.
Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas des fois les films de super-héros, qui vont peut-être dire « Ah, c'est le Joker, c'est un film de super-héros, je le passe. »
C'est un film de
c'est
folie.
C'est un vrai drame psychologique.
Effectivement, c'est un drame psychologique et des fois, dans les films de super-héros, il y a des choses qui se peuvent pas, ou des affaires. Là, on est vraiment plus dans l'humain.
Ouais.
Et on est vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'humain, et ce qui fait encore plus troublant, c'est qu'il y a bien des affaires là-dedans qui des questions de la société là, sur notre société à nous qui sont dans ce
film-là. Peut-être grossi dans le film, là,
grossi,
caricaturé,
mais qui nous fait poser des questions sur notre société et comment on gère justement, comme tu as dit, Mélina, les gens qui ont des troubles, comment on les gère, est-ce qu'il y a assez de soutien à ces gens-là, qu'est-ce qui peut arriver avec la politique, le gouvernement, qu'est-ce qui se passe
et
si
même
on les entraîne, si on les aide pas.
Je veux dire, même le rapport humain entre, peu importe, des gens qu'on ne connaît pas, à quel point ça peut être froid et à quel point, même sans la dynamique santé mentale, et même, on peut remarquer ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer aujourd'hui aussi, à quel point les gens, c'est tellement facile, surtout avec les réseaux sociaux, c'est ça que je veux dire, c'est tellement facile de commencer à juste détruire quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Tout à fait, et de ne pas se rendre compte de toutes les conséquences que ça crée en arrière, parce que c'est ça dans le fond, c'est quelqu'un qui se fait un peu détruire.
Ça peut être la goutte. Qui fait déborder un vase bien rempli.
Ouais.
Et ce film-là, mis à part son aspect politique, son aspect... peu importe, ça se veut, à mon sens, un peu une espèce d'apologie de comment est devenu un criminel, le Joker.
Mm-hmm.
Oui.
Parce qu'on voit tout ce qui lui arrive, une suite d'événements, des réalisations sur sa propre vie, des problèmes psychologiques puissants, là, psychoses, des choses un peu intenses qui font qu'il y a des moments dans le film où la réalité qu'on voit n'est pas vraiment la réalité. Mais ça, on ne l'apprend pas tout de suite, on l'apprend plus tard.
Ouais.
Je pense que j'ai le droit de le dire parce que de la façon dont c'est fait, ça le permet. Mais c'est ça qui est merveilleux.
Mais
c'est qu'au bout du compte, on vit son personnage.
Exactement, ça nous fait
dans dedans et de dehors.
Exactement, ça nous plonge littéralement dans sa réalité. Puis pour nous faire comprendre vraiment c'est quoi le personnage. Puis c'est les origines dans le fond du méchant. Puis c'est vraiment ça. C'est-à-dire, et même dans nos sociétés, comment les, entre guillemets, méchants, les gens qui font des choses méchantes, comment ça arrive, comment on les crée, est-ce que sont créés par la société? C'est aussi cette question-là qui est amenée dans ce film-là.
Exactement.
C'est de dire, est-ce que ce n'est pas nous? Tu sais, on les pointe du doigt en disant, ah, t'as fait un acte de méchant, mais est-ce que c'est pas nous aussi qui contribuons à cette naissance-là de ces méchants-là, entre guillemets?
Définitivement. Puis même, je vous poserais même la question, est-ce que vous avez ressenti de la compassion pour le Joker à certains endroits dans le film? Quelque chose qui pourrait s'y apparenter?
Oui. Moi, je dirais que oui. Mais il y a quelque chose de désagréable à voir ça parce que il y a des moments où on ressent, on a envie de l'aider, puis il y a des moments où on n'a pas envie. Il y a des moments où on n'a pas envie d'avoir de compassion pour cette personne-là parce qu'on sait ce qui se passe.
Mm-hmm. Puis on sait aussi ce qui s'en vient, dans le sens où on sait que c'est le Joker, ouais, dans le sens...
Exactement. Mais en même temps, quand on voit tout l'impact que la société, que tout ce qui peut impacter une personne, mm-hmm. je sais pas, moi, j'ai ressenti une espèce de... Je sais pas, de compréhension, de compassion, mais tu veux pas ressentir de la compassion parce que...
Et c'est cette lutte-là, je pense, que c'est intéressant et qu'il voulait. C'est la force mm-hmm. du film, tu sais. Puis il y a aussi le rire... qui a été capable d'aller chercher, c'est une des affaires qui a travaillé beaucoup, supposément.
Ben justement, on va peut-être en reparler par après, ça, du rire, parce que je serais curieux de faire un petit comparatif avec les autres Joker à ce niveau-là.
Ouais.
Mais avez-vous remarqué aussi, pour la première fois dans des Batman ou des films de cet univers-là, il y a une transformation un petit peu des faits au niveau politique. On voit le père de Bruce Wayne, c'est quoi son nom déjà?
Thomas
Wayne. Oui, on le voit peut-être dans une position un petit peu moins glorieuse, un petit peu moins propre personnage.
Mais parce qu'on a aussi le point de vue... Un autre point de vue.
Le point de vue de l'aristocratie. Exactement. Et le point de vue de, mm-hmm. des pauvres, tu sais.
Oui, parce que dans les Batman, on voit souvent le point de vue de Batman qui est un riche, qui défend le crime. Mais au final, là, on voit aussi pourquoi le crime est là, pourquoi les gens se rebellent, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, puis c'est intéressant de voir ça aussi.
Oui, puis il y a des affaires qu'on ne veut pas dire là, par rapport à ça, parce que c'est quand même assez spectaculaire à mon goût, là, ce qui est approché. Là.
Je pense que vous remarquez que jusqu'à maintenant, dans notre critique commune, on ne parle pas du tout des aspects techniques du film.
Effectivement.
Et je pense que ça, c'est tellement ça. C'est quand un film réussit à aller aussi loin que ça, on n'a même pas envie de parler des aspects techniques parce que...
On a moins le temps de les regarder de toute façon.
Oui,
on est plongé par l'histoire. On est captivé, on les remarque moins. Mais peut-être qu'il faudrait une deuxième, une troisième écoute pour vraiment regarder les plans.
Moi, j'ai quand même pris un peu la peine d'analyser. J'ai trouvé que la photographie est très belle. Ça m'a pas renversé, mais c'était original, c'était beau.
Oui, j'ai regardé quelques petits plans aussi, des fois expliqués par le réalisateur. J'ai réussi à voir ça et c'était intéressant. Des fois, il a pris des plans vraiment au niveau BD un peu plus comique qu'on voit moins souvent dans des films, mais que tu réalises pas tout le temps nécessairement qu'ils sont là, mais que ça te plonge quand même plus dans l'univers un peu comique. Mm-hmm.
C'est vrai, je me souviens, on arrête sur un objet... en gros plan, puis là on voit ce qui se passe autour. On joue un peu avec ce jeu de lumière.
Il y a un jeu de lumière aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, moi le jeu de lumière m'a beaucoup parlé. Il y a une scène particulièrement où il est dans une chambre d'hôpital. Je ne dirais pas ce qui se passe dans la chambre d'hôpital, mais tout ça pour dire que lui est illuminé par la lumière qui vient de la fenêtre, mais on est comme sorti derrière la porte et tout le reste est noir autour. Il y a beaucoup de jeux, surtout, moi j'ai beaucoup remarqué ça dans des moments clés.
Le côté sombre versus la lumière.
Oui, on oppose vraiment ça. Ouais. Le personnage, des fois, va être super dans la lumière, d'autres fois, va être vraiment dans l'obscurité. Ça m'a vraiment beaucoup marqué aussi dans le film parce qu'on réussit vraiment à donner une espèce d'effet où on se sent pas bien, un peu claustrophobique aussi, des fois, dans les plans de caméra. Mais justement, c'est ça, c'est qu'on réussit, du moins, moi, à part ça, je me suis très peu attardée sur l'aspect technique du film parce que j'étais vraiment prise dans le film. Et ça, pour moi, c'est une bonne réussite.
Ah, c'est une très bonne réussite. Moi, je pense que ce film-là s'enligne pour des Oscars, de toute évidence, lesquels, je pourrais pas dire, probablement meilleur acteur. Là. Mm-hmm. Il va être en nomination, c'est probablement certain.
Oui, mais encore là, effectivement, il y a le côté polémique un peu du film.
Oui, bon, c'est ça, c'est une autre histoire.
Qu'on va voir, est-ce qu'au niveau des Oscars, des fois, il y a certains films qui vont faire attention en disant qu'il y a beaucoup de violence. Il y a eu des critiques là-dessus aussi, mais...
Mais je pense qu'on voulait montrer la violence telle qu'elle était, pour une fois.
Mais exactement, c'est un film, c'est une œuvre d'art, c'est quelque chose qu'on doit... Il faut exprimer certaines affaires.
Il ne faut pas oublier que c'est beaucoup de monde qui vote aussi, et donc pour les Oscars, pour les nominations, donc ça va vraiment avec le corps de métier. Donc, en même temps, on dit, l'Académie va vouloir faire un statement, va vouloir dire que c'est pas correct. Oui, mais l'Académie, c'est pas cinq personnes dans une salle qui fait une décision.
Exactement.
C'est tout le monde qui vote de son côté. Donc,
on va voir effectivement s'il va avoir un lien. Puis aussi, historiquement parlant, les films de super-héros ont rarement été en nomination. Bon, évidemment, Heath Ledger a gagné un Oscar
Black Panther
posthume,
a été en nomination
mais sont très peu souvent mis de l'avant. Et là, comme ça tombe un film super-héros, classé, étiqueté super-héros, même si au final, c'est pas tant ça, ben, tu sais, au final, le seul bonus que ce film-là a d'être étiqueté super-héros, c'est comme quoi qu'il y a de la publicité gratuite, entre guillemets, ouais. dans le sens où des gens veulent aller le voir. Quand, si ça n'avait pas été étiqueté super-héros, ça aurait été un super ouais. de bon film.
Et il aurait pu appeler gens... ça Archer, puis ça aurait été
ouais, exactement.
Et les bon, gens. Il y a le côté clown, là, été... qui aurait été difficile à expliquer en oui, dehors oui, du contexte oui. du Joker, ça permet tout, tout fait. Cet univers-là. Oui, oui.
Je suis d'accord avec ça, mais ça reste un très bon film oui. Qui aurait peut-être passé sous le radar s'il n'y avait pas eu le saut DC dessus.
T'sais. Exactement. Et ce, avant de donner nos notes, parce oui. qu'il va falloir le faire, oui. Film plus politique, beaucoup plus politique que les autres, vous trouvez pas?
Oui, oui, oui. Oui, oui, oui c'est sûr.
Parce que, bon, le côté social, révolution un peu dans la rue, ouais. tout ça. On avait vu ça, on avait vu un truc similaire dans le premier Batman là, avec Jack Nicholson.
Ouais.
Je ne sais pas si vous en souvenez.
Moi, je l'ai pas.
Moi, j'ai vu des bribes un peu des
ouais. Ah, vous êtes des vrais fans, hein?
Oui, des vrais fans. Voilà.
D'accord.
Oui. Oui. Mais moi, je vais parler de la musique un petit peu.
Oui, ben oui.
Parce que
oui.
c'est pas quelque chose que je m'attendais. Parce que ce film-là, je m'attendais vraiment, bon, la performance, tous les le Joker, etc., etc. Mais il y a beaucoup de jeux avec le, mm-hmm. le Joker mm-hmm. sur la musique.
Surtout la chanson,
il
là,
danse, la musique. Il y a oui. quelque chose avec la musique. Et j'ai appris par après que la musique, la majorité du moins, peut-être pas l'intégralité, mais de la musique a été créée avant qu'ils tournent les scènes. Mm. Ce qui est très rare, généralement, c'est par après, ils regardent les scènes, il y a des gens okay. qui composent. Et là, de ce que le réalisateur
sur la musique, dire,
c'est comme quoi qu'ils ont tourné, mais il y avait déjà la musique décrite et de faite mm. pour
ah, c'est
ces
bien
scènes.
Ça. C'est intéressant, ça.
Donc, ça crée un contexte différent et il y a une symbiose avec le jeu d'acteur et la musique qui est vraiment spécial et qu'on voit rarement, justement, potentiellement à cause de ça. Et quand j'ai su ça par après, j'ai peut-être compris un petit peu pourquoi il y avait cette symbiose-là encore plus mm-hmm. puissante avec le jeu du personnage et la musique qui est c'est assez puissant. Et je ne m'attendais
ben
pas
oui.
à ça.
Puis malaisante aussi.
Oui, tout à fait.
Accentue énormément le malaise.
Oui, les violons, waouh.
Oui.
Ouais, ouais, ouais.
Moi, j'ai envie qu'on donne nos notes.
Oui.
Oui.
Et après, je vous propose un jeu.
OK.
Pour découvrir le rire des différents Jokers parmi le... Oh. parmi... Moi, j'ai une petite surprise que j'avais cachée comme ça.
C'est ça, pour la centième. Parfait.
Alors, oui, ben alors, vous donneriez combien, vous, au film Joker?
Moi, je...
C'est une question, hein?
Oui, tout à fait. Moi, j'y donne un 9.
Oui, moi aussi, j'y donne un 9.
Oui.
OK.
J'y donne un 9. C'est un film à voir qui est dérangeant, qui est troublant. Est-ce que je voudrais le revoir souvent? Peut-être pas. Peut-être que je vais vouloir le revoir dans 6 mois, 1 an... Mais c'est un film troublant, mais je crois nécessaire et violent,
ouais.
mais nécessaire,
ouais.
je pense.
Moi aussi, je donnerais un 9 pour moi la même aussi, raison. Ouais. J'ai vraiment pas envie de revoir ce film-là parce que c'était trop intense.
C'est intense.
Mais
c'est un long...
C'est un chef-d'œuvre. À mon avis, va devenir un film culte.
Oui, c'est un très bon film, ouais, mais très, c'est très intense.
Oui, oui, oui.
C'est intense.
Tout à fait. Toi, Mélina?
Un 9 aussi, je l'ai dit.
Tout à fait, oui.
On parle en même temps, je comprends pas. Excellent. Ben moi, je vous propose un petit jeu maintenant que les trois, on a donné un 9 sur 10 au film Joker. Je vous propose un petit jeu pour essayer de deviner qui est qui. Donc, je vous propose d'écouter les rires de tous les Jokers et de choisir lequel est lequel.
Alors,
vous allez en avoir plusieurs. Il y aura Jack Nicholson,
oui.
qui a interprété le Joker dans le premier film. Il y aura Mark Hamill, qui est le mm-hmm. personnage dans Star Wars de voyons.
Ah oui, de Luke.
De Luke Skywalker, c'est ça. Hey, moi, la mémoire, c'est incroyable. Oui, et en plus de ça, le monsieur César Romero qui est l'acteur qui jouait dans la vieille série des années 60,
oh my God,
le personnage de Joker.
Oui.
J'ai choisi Heath Ledger et évidemment, j'ai été récupérer le Joker de Joaquin Phoenix. Donc, on a 5 Jokers.
Okay.
Lequel est lequel? Alors, je vous l'ai fait entendre. Essayez de trouver qui est qui dans cette histoire-là. Okay,
parfait.
Alors, on va commencer simplement par celui-ci.
Bon, ça, c'est vieux, ça.
Moi, je dirais Jack Nicholson.
Exactement! Ouais, c'était ça. Jack Nicholson. Ah. Félicitations. Ben là, du premier coup, c'est bon.
Quand même,
c'est
hein?
Bon, c'est bon. C'est excellent. Joué. J'en ai un autre.
Heath Ledger?
Ben oui! Mais non, wow. Tu vois-tu mes notes, toi,
ben,
là?
Voyons donc! Il me fait détruire.
C'est incroyable, incroyable.
Mais son rire, à lui, était beaucoup plus particulier, en tout cas.
Oui, continuons, continuons.
Ça, c'est Joaquin
Phoenix.
Ça,
c'est actuel.
Alors, ça
fait.
Vous avez reconnu Joaquin Phoenix?
Ouais.
OK.
Ah là, je suis pas sûr.
Ça, c'est la série des années 70, je pense.
Des années 60, oui, c'est Romero.
Romero.
Exactement. Et bon, ben là, par élimination.
Mark Hamill.
Exactement.
Sacré
bon, moi, j'espérais que nos auditeurs pourraient deviner en même temps que nous, mais visiblement, ça ne sera pas possible parce que vous avez volé la vedette, mesdames, messieurs. Vous avez très rapidement deviné tous les rires des Jokers. Il y en a qui sont assez farfelus dans cette histoire-là.
Mais en même temps, ça fait partie du Joker et chaque Joker a un rire tellement distinctif que justement, ça dénote la couleur de ton Joker. Quel Joker veux-tu faire? Exactement.
Et voilà, c'était tout pour Cinébrunch cette semaine. Pour ce centième épisode, la semaine prochaine, épisode 101, on repart à neuf et on vous montre comment le cinéma fonctionne.
Oh, est-ce qu'on a des petites surprises pour l'épisode 101?
Non, probablement pas, le retour à la normale. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve donc samedi prochain, 11h, en rediffusion les mardis à midi. Et sinon, sur notre site web, cinébrunch.com. Merci, à la semaine prochaine.
Merci.